Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, un petit homme Zachée.
Voilà, on va ouvrir notre Bible dans l'Évangile de Luc. Si vous voulez bien suivre avec moi, on va prendre un passage qui est, c'est vrai, bien connu, mais je pense qu'il est toujours bon de revenir à l'essentiel. Hein, c'est ce qu'on a dit ce matin. Voilà, les fondamentaux, les vérités fondamentales. Et je pense que ça reste, hein, et on n'a pas besoin d'innover. Hein, il suffit de revenir, d'ouvrir la Bible tout à nouveau et de nous laisser inspirer par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui nous donne, eh bien là, d'enraciner notre foi, nous l'avons dit. Alors, il y a un petit homme, un petit monsieur dans la Bible, qui monte dans un arbre. Vous le connaissez, tout le monde le connaît, et on va encore le découvrir, il va encore nous parler cet après-midi. Ça se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 19. Voilà. Ah oui, non. Zachée, excusez-moi si vous m'entendez avoir un problème de prononciation, je m'y suis jamais fait depuis des années. Hein. Zachée. Voilà, mais j'espère que je vais tenir jusqu'au bout. Voilà, alors on va lire cette histoire, surtout l'association de Jésus et Zachée. C'est difficile. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà. Donc, c'est une histoire bien connue. Elle est unique, hein, dans ce sens qu'on ne la retrouve que dans l'Évangile de Luc. Hein. Mais elle a marqué. Elle a marqué probablement des centaines et des milliers de vies. Pour autant que, quelquefois, nous nous souvenons des témoignages que nous avons entendus de certaines personnes dans le passé, qui nous ont dit « Mais moi, je me suis converti le jour où j'ai entendu parler de Zachée. » Parce qu'il a des particularités, ce petit homme, et qui, quelquefois, eh bien, peuvent nous interpeller nous-mêmes parce que nous nous sentons un petit peu dans sa peau, un petit peu dans ce qu'il est lui-même, de ce qu'il était lui-même. Et il y en a qui se sont reconnus et, véritablement, qui ont entendu cet appel de Dieu, comme Zachée, il y a si longtemps, l'a entendu et a suivi Jésus. Et j'aimerais simplement rappeler une phrase, une parole que Jésus nous laisse dans l'évangile de Jean quand il est dit ceci. Vous savez, dans cette fameuse parabole du bon berger, Jésus dira ces mots « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais il faut que je les amène. » Et je crois que nous sommes tout à fait dans le cas de figure de notre ami Zachée, parce qu'il ne faisait pas partie de la bergerie, hein. Il était vraisemblablement juif, qui avait pris ses distances avec la synagogue ou avec le temple. Oh, il s'était certainement très très éloigné. Mais néanmoins, il fait partie certainement de ceux qui, quelque part, correspondent à cette démarche du Seigneur d'appeler ceux qui ne font pas partie encore de cette bergerie, du royaume de Dieu, qui n'ont pas répondu à l'appel du Seigneur. Et Jésus nous dit, il faut que je les amène. Et c'est lui qui va les chercher. Ce matin, on a vécu vraiment des temps forts dans cette église, à travers eh bien, les témoignages à travers ce que nous avons partagé ensemble. Et c'est vrai que nous sommes toujours réjouis de voir des hommes et des femmes qui entendent l'appel de Dieu, même dans notre temps, même dans notre temps, dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que je pense que c'est toujours la même parole. Il y en a encore certainement des centaines et des centaines. Et très souvent, lorsque nous prions, nous pensons un petit peu à l'histoire de Zachée, à l'histoire de Jaïrus, et puis de bien d'autres comme ça, en disant « Mais Seigneur, ce sont des gens comme ça que nous aimerions voir venir à toi. » Parce que finalement, rien ne les prédispose à s'approcher de Dieu. Ils ont souvent une vie éloignée, une vie qui est la leur, hein, naturellement, hein, souvent dans l'ignorance de la grâce de Dieu, mais ils entendent la voix, ils entendent cet appel et ils répondent. Comme également l'apôtre Paul le dira plus tard dans ses épîtres, il dira cette parole très forte et qui me met toujours dans une grande sensibilité à ce qui est dit, quand il est dit ceci, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alors ça c'est réjouissant, parce que on se connaît les uns et les autres, on a déjà marché ensemble depuis un certain nombre de mois ou d'années, mais on ne connaît pas encore ceux qui vont venir. Et pourtant, lorsque nous nous sommes convertis, il y avait des gens qui pensaient comme nous en disant « mais il y en a certainement qui vont venir encore, mais toi tu les connais, ils sont pas encore là ». Et nous sommes rentrés dans cette bergerie, au fur et à mesure, comme ça, c'est du goutte à goutte souvent avec le Seigneur. Hein. On aimerait pêcher au filet, mais souvent c'est à la ligne. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un peu la difficulté du terrain de nos pays occidentaux, dits prétendus chrétiens, mais qui n'ont plus rien finalement de connaissance ou d'aspiration de l'évangile de Jésus-Christ, d'un évangile d'expérience. Alors, tout cela, ça, ce sont des paroles qui nous rassurent. Et cet après-midi, en pensant à cela, je pensais à Zachée. Et je me suis dit, ce sont des gens comme ça. Seigneur, envoie des Zachées, envoie des Lydies, envoie des Cornels, envoie des Eunuques, vous savez, comme on en a parlé tout récemment, parce que ce sont des gens qui n'hésitent pas. Ils sont appelés et avec tout le temps qui sera nécessaire. Mais néanmoins, ils répondent spontanément. Je pense un jour à Matthieu. Vous savez, celui qui était là, au bord des péages, au bord du chemin, au péage, et Jésus lui dit « Laisse tout et suis-moi ». Il laisse tout et suit Jésus. Hein. Et nous savons que ce fameux Matthieu est devenu celui que nous connaissons. Il a écrit un évangile qui est le plus consistant de tous les évangiles, en tous les cas, en nombre de chapitres, et il a laissé un message immortel, finalement, à travers les temps et à travers les siècles. Alors, on va revenir donc à notre histoire, sur Luc, et voilà que Jésus, dans ses pérégrinations, arrive à Jéricho. Jéricho, et il traverse la ville. Jéricho, c'est certainement, d'après les géologues et puis les archéologues, la ville la plus ancienne au monde. Et si nous voulons découvrir Jéricho, alors il faut la chercher bien bas, en dessous de nos pieds, parce qu'il y a encore tant de choses. Il y a à peu près encore 2 mois et demi, nous avons eu l'occasion d'aller à Jéricho, en visitant Israël, la Palestine, bien que ce soit séparé maintenant, puisque c'est quand même assez scabreux d'y aller. Mais toujours est-il que nous étions fait une idée de ce que pouvait être Jéricho. Alors, si l'on regarde les images, même bibliques, on s'imagine que c'est une ville en haut d'une colline, d'une montagne, avec des fortifications et tout ça. Et pour aller à Jéricho, on est descendu. C'est ça ce qui est curieux. Parce que tout autour, c'est les monts de Judée, les montagnes de Judée. Et quand vous allez à Jéricho, vous êtes vraiment, vraiment dans un fond, dans un trou. Et on a essayé de chercher les murailles, il y avait longtemps qu'elles étaient écroulées. Ah oui, tout ça, ça a disparu. Par contre, on a vu quelque chose dont il nous est parlé dans la Bible. On a vu un sycomore. On n'en a vu qu'un. Mais on n'a pas trouvé Zachée dedans. Il était descendu, on ne nous l'avait pas prévenu, il était descendu déjà depuis 21 siècles. Alors il ne pouvait pas rester dans son arbre, de toute façon. Et toujours est-il que c'est un arbre quand même assez volumineux. C'est quand même gros. Et puis, ce qui est la caractéristique, c'est que les branches sont quand même pas très loin du sol. Et avec un peu d'habileté, on peut monter et se cacher dans les feuilles. Alors, c'était toute une histoire tout ça, parce qu'on s'est dit, tiens, il y a dans la Bible ce formidable récit de Zachée qui monte dans le sycomore et qui se cache, finalement, pour voir ne pas être vu. C'est une stratégie, ça. Mais je pourrais lui dire que ça lui a porté chance. Hein, parce que finalement, il lui est arrivé une belle aventure. Alors, il est rentré, Jésus, donc, avec toute sa troupe, hein, tous ses amis, ses compagnons, ses disciples. Il est rentré dans cette ville de Jéricho. Et voilà. Et à un moment donné, le texte, Luc en particulier, le chroniqueur, nous rapporte qu'un homme riche, hein, qui s'appelle Zachée, il est chef des publicains et il cherchait à voir qui était Jésus. Alors la première chose, c'est qu'il nous a donné son état. Son état, sa condition de vie, c'était un homme riche. Bon, il y en a toujours eu, il y en a encore. Hein, et malgré probablement sa richesse et malgré ses possibilités qui étaient les siennes, qui caractérisaient son état, eh bien, il semblerait qu'il avait besoin d'autre chose. Vous savez que la Bible nous parle de la richesse qui est dans le cœur. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, nous parle et nous tient ce discours. Il nous dit, mais faites-vous un trésor, non pas sur la terre, parce qu'il parle de voleurs, il parle de rouille, hein, et de toutes sortes de choses, la teigne également, qui ronge et qui détruit. Mais Jésus élève un peu le niveau, il dit, mais faites-vous un trésor dans le ciel ou là, alors vous êtes tranquille. Aucune crainte, la sécurité est absolue, elle est totale. Et c'est vrai que cet homme, comme il y en a encore probablement, certainement de très nombreux de par le monde, eh bien, avec son argent, avec sa richesse, avec sa réussite, puisqu'il était quand même tenu dans une certaine position respectable. Imaginez-vous qu'il était chef d'une caste qui était la caste des publicains. Alors, chef, c'était très honorifique, publicain, ça l'était un peu moins, au jugement et au jugé de... certainement ceux qui se disaient juifs, orthodoxes, bien dans la foi d'Israël. C'est sûr que c'était quand même deux conditions différentes entre les pharisiens, les sadducéens, qui faisaient profession haut et fort de connaître Dieu, et puis voilà, hein, donc d'être quand même en quelque sorte les maîtres à penser, les directeurs de conscience du temps, et puis c'est... cette opposition, on pourrait dire, de gens qui vivaient avec un certain libéralisme, qui ne s'ennuyaient certainement pas avec des règles, avec toutes sortes de choses, de quelque nature que ce soit. Alors, lui, il faisait partie finalement de ces gens qui avaient pignon sur rue, mais c'était certainement pas pour sa croyance et sa foi et sa fidélité dans la loi de Moïse. Hein. Alors, les choses nous sont présentées comme ça. Et voyez-vous que cet homme, malgré sa richesse et malgré également sa position d'homme réputé, eh bien, il cherchait à voir. Il avait besoin de quelque chose d'autre. Oui, il voulait se faire une idée par lui-même. Et ça, c'est quelque chose de formidable parce qu'il y a tant de gens qui fonctionnent avec des préjugés, hier et encore aujourd'hui. Ce matin, nous avons été heureux de voir des gens nous rejoindre parce que, quelle que soit leur position religieuse, ils se sont dit « nous allons aller au centre évangélique ». Qu'est-ce que le centre évangélique? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui, finalement, eh bien, se démarquent, sont probablement différents des autres, qui ont une expression de la foi, je dis bien, qui eh bien, n'est pas commune et n'est pas courante. Et certains sont venus, et ont pu se rendre compte de ce qu'il pouvait y avoir d'autres manières d'expression, d'autres manières de vivre, de servir Dieu, d'aimer Dieu, de lui obéir. Alors, ça c'est quelque chose, mais il y en a beaucoup, hein, beaucoup dans le sens inverse, qui se disent, eh bien, si ce n'est pas ce que je connais, si ce n'est pas ce que je sais, si ça ne correspond pas à mes traditions, à mon éducation, à la manière dont j'ai été élevé, et ceci et cela, alors, moi, ça ne doit pas être bon, ça ne doit pas être bien. Mais il y a, comme nous le disions ce matin, eh bien là certainement une position de recherche et de rechercher surtout l'exactitude des choses. Alors on a bien dit que ce n'était pas fondé sur nous-mêmes, sur nos pensées, notre croyance propre, mais c'était tout cela était fondé sur finalement une vie qui correspond aux enseignements que Jésus nous a laissés dans l'Évangile. Et ça change tout. Alors c'est vrai que le monde est encore plein de préjugés sur le plan politique, hein, sur le plan de la manière et de la façon de vivre. Mais alors, quant au domaine religieux, c'est vraiment, nous sommes dans un pays qui est très difficile. Oh, je crois que ce n'est certainement pas le propre de notre nation, mais dans tous les pays, c'est un petit peu comme ça. Hein. Alors, lui, il voulait se faire une idée par lui-même. Et ça, c'est bien. de dire, eh bien voilà, je vais regarder, je vais voir qui est Jésus. J'ai entendu parler de Jésus. Peut-être en avait-il entendu parler parce que un de ses collègues, longtemps auparavant ou quelque temps auparavant, dont celui, je citais le nom tout à l'heure, Matthieu, était aussi au péage. C'était un percepteur d'impôts, c'était un homme qui faisait la collecte pour l'occupant romain. Et peut-être qu'il avait, alors, c'était peut-être venu jusqu'à lui qu'un homme de sa catégorie, un homme de sa corporation s'était converti. Alors, il ne voulait pas trop se mouiller, il fait un peu comme Nicodème. Eh bien, il va se cacher pour voir un peu qui est Jésus. Et bien, c'est formidable parce qu'on peut souligner quand même son courage et sa détermination à en savoir plus que ce que les autres disent. Parce que c'est vrai qu'on est souvent entraîné par un témoignage d'amis, de gens que nous rencontrons en disant « Mais viens, écoute, lis la Bible, etc. etc. » Mais ce qui est formidable, c'est bien ce qui peut nous être dit. Mais il faut nous-mêmes se rendre à l'évidence et quelque part eh bien, faire la démarche. Et Zachée l'a fait. Et il voulait savoir qui était Jésus. Quel était cet homme qui allait de long en large en Palestine, qui faisait un petit peu le tour de toutes les villes, et puis pas seulement cela, mais son passage était toujours marqué par des faits extraordinaires. Il y avait des guérisons, les malades étaient guéris, il y avait des prodiges, jusqu'à ressusciter des morts. Il y a des possédés qui se sont approchés de Jésus, et lui il les délivrait, et les gens revenaient à leur bon sens. Ils retrouvaient un état normal d'homme. Alors il voulait avoir une idée. Mais voyez-vous, le problème de Zachée, c'est peut-être aussi par extrapolation le dire, c'est qu'il avait du mal parce qu'il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Voilà, voilà, il avait un problème. Il aurait été peut-être différent, on n'en aurait pas parlé. Mais il y avait toute cette opposition de la foule qui était là, qui faisait barrage. Et puis naturellement... La grande difficulté, c'est que non seulement la foule, mais lui, il était petit. Alors, les grands se plaignent parce qu'ils sont trop grands, ils se cognent toujours la tête sur les poutres. Et puis, il y a aussi les petits parce que finalement, ils sont toujours derrière, ils ne voient rien. Hein, ça, c'est difficile. Hein. On ne choisit pas comme... on est comme cela, tout simplement. Et lui, c'est son problème. Et combien de gens aussi dans notre monde aujourd'hui sont empêchés parce qu'il y a une foule opaque? Il y a une opposition, il y a comme un mur, comme une muraille qui empêche les gens de venir à Jésus-Christ. Ça, c'est pas le premier fait que nous voyons dans la Bible. Jaïrus a eu le même problème. Et c'était un cas d'urgence, Jaïrus avec sa petite fille qui était à l'extrémité. Mais là, il n'y avait peut-être pas d'urgence, mais néanmoins, c'était aussi la foule qui faisait écran. Vous savez, la foule des hommes. Quelquefois, ça peut être des gens très proches de nous. Et en particulier, notre propre famille. Jésus le dira, que nul n'est prophète dans sa propre patrie. Il faut avoir du courage pour dire, moi je crois en Jésus, je fais profession de foi, d'être chrétien, parce que j'ai rencontré Jésus dans ma vie. Vous allez avoir diverses réactions. Les gens qui vous ont vu grandir, ils vont dire, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Ils vont peut-être vous dire, mais fais attention parce que tu es là dans une secte. On va mettre la main sur toi. Tu es en train de te faire manipuler, et ceci, et cela. On va trouver tous les arguments possibles et imaginables. La foule, les hommes, l'opposition des hommes. C'est curieux parce que les gens ne s'intéressent pas à Dieu pour eux-mêmes. Mais dès que quelqu'un se démarque en disant « Mais moi, je lis la Bible, je prie Dieu », là, ils vont s'intéresser à Dieu pour vous empêcher finalement d'aller plus loin. Et ça, c'est terrible. Mais être chrétien, c'est passer par-dessus toutes ces barrières et affirmer, tout en respectant les autres, parce qu'on n'est pas là pour non plus mépriser, mais toujours est-il que c'est par notre ténacité, par notre persévérance et notre affirmation que finalement, à un moment ou un autre, eh bien, ceux qui vous font opposition, cette foule dont nous parlons, eh bien, va comprendre qu'il n'y a rien à faire. C'est que votre vie a réellement changé, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de vous-même et quoi qu'il fasse, ça ne changera rien. Et peut-être que ça les amènera à réfléchir, peut-être à penser que votre foi, eh bien, est fondée et enraciné sur quelque chose de solide, et sa petite taille. Naturellement, tout ça s'accumulait, l'opposition des hommes, la foule, et puis sa petite taille. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent, et peut-être beaucoup plus que nous le pensons, qu'ils sont trop petits pour Dieu. Ils sont trop petits, eh oui. Seigneur, mais qu'est-ce que je suis? Je ne vaux rien. Tu sais, ma vie... comme Zachée pouvait le penser, parce que lui, c'était physique, mais peut-être qu'il pouvait le penser sur le plan moral et spirituel, pouvait se dire, tu sais, Seigneur, Moi, ça fait des décennies que j'ai pas mis les pieds à la synagogue, que je suis pas allé au temple. Ça fait des décennies que je n'ai jamais ouvert la bouche, même si tout petit, on m'a appris les prières de Moïse, les psaumes, etc., parce qu'il s'agit d'un juif, naturellement. Vous pouvez dire, mais tu sais, moi, tout ça, c'est oublié. Ça fait partie d'une vie qui est véritablement tellement lointaine maintenant. Alors, je suis petit. Puis tu sais, Seigneur, j'ai fait tellement de choses. J'ai fait tellement de bêtises. Je me suis prêté à toutes sortes de choses. Il était dans les affaires, hein, notre brave Zachée. Et non seulement dans les affaires, mais il avait quand même un travail très délicat. C'est qu'il percevait le tribut ou l'impôt pour les Romains. Alors imaginez-vous, vis-à-vis de ses compatriotes, c'était un renégat. C'était un collaborateur. Et vous savez que les collaborateurs ont, hein, ça, ils ont quand même une réputation. Alors tout ça, c'est sûr qu'il pouvait trouver des arguments. Je suis petit, donc ce n'est pas pour moi, Seigneur. Moi, je ne vaux pas la peine que tu t'intéresses à moi, que tu fasses quelque chose pour moi. Vous savez, comme ce centenier qui dira avec beaucoup d'humilité à Jésus, « Ne te déplace pas, ne viens pas dans la maison. Hein ?» parce que je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Ben moi, je dis que ces gens-là, ils ont beaucoup plus de chances de rencontrer Dieu, de rentrer dans la bergerie, que ceux qui disent, eh bien, tu sais, Seigneur, tu dois être content, parce que moi, je suis vraiment un brave croyant, un brave chrétien, et si j'étais pas à la synagogue ou dans le temple, eh ben, ça fonctionnerait pas. Hein, alors, voilà. Donc, ça, c'est, vous avez les deux cas. Vous avez la surenchère, ou alors la sous-estimation, la surestimation. Et moi, je crois que pour différentes raisons, eh bien, Zachée était un homme qui se sous-estimait. Seigneur, je suis vraiment un pauvre homme. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, justement, quand on pense là, personne n'est trop petit. Personne ne peut dire tout simplement, eh bien, je ne vaux pas la peine. Parce que, si vous voulez une preuve tout à fait évidente, il y en a un qui pouvait absolument pas se réclamer. Probablement, compte tenu de ses faits, de ses crimes, de ses mains salies par le sang, c'était le larron quand même à la croix. Hein. Lui, il pouvait pas dire qu'il avait une vie exemplaire, hein. Parce qu'il y avait peut-être mort d'homme, plus d'une fois probablement, parce que c'était un patriote, hein. C'était un homme qui avait certainement fait des coups de main et des attentats et toutes sortes de choses. C'était un terroriste, on pourrait dire. Et pourtant, Jésus lui dit bien, quand il va le prier et le regarder, il va lui dire « Mais aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis » parce que le précédent venait de lui dire tout simplement « Eh bien, lorsque tu viendras dans ton règne, eh bien, souviens-toi de moi. » Alors Zachée, lui, pour d'autres raisons, parce que c'est un publicain, parce que c'est un homme qui, bon, voilà, on connaît l'histoire, eh bien, pouvait se dire « Mais je suis de petite taille, je suis petit sur mes jambes, mais je suis petit dans mon cœur, je suis petit dans mes pensées, je suis mesquin, je suis rien du tout. » Alors, pourquoi tu vas t'intéresser? Mais néanmoins, il est petit, mais il a petites jambes, mais il court vite. Vous voyez? En principe, ça peut aider d'avoir des grandes jambes, non? Messieurs, je ne sais pas. Oui, peut-être. Enfin, il faut démultiplier. Hein. Alors voilà, donc, il courut en avant. Il y en a qui courent en arrière, hein, c'est terrible. Hein. Quand il voit le Seigneur, il court dans l'autre sens. Mais lui, il court en avant. Heureusement que c'est marqué en avant. Hein, parce qu'on aurait pu penser que... Ah oui, non, mais vous en avez beaucoup qui courent en arrière. Ne me parlez pas de Dieu, hein, parce que Dieu leur fait peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de Dieu. Mais pourquoi avoir peur de Dieu? Vous savez ce qui leur fait peur de Dieu? C'est parce qu'on leur a dit d'avoir peur de Dieu. La religion leur a dit d'avoir peur de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui juge, c'est un Dieu qui punit, qu'est-ce que vous voulez? C'est normal? Ça se comprend? On leur a inculqué que c'était comme ça. Si tu fais une bêtise, Dieu va te punir. Ou alors on le dit, vous savez, quand tes enfants font des bêtises... Et qui se fait mal tout de suite après, qu'est-ce qu'on dit? Mais c'est une sottise. Dieu t'a puni, le bon Dieu t'a puni. Mais alors dites donc, c'est terrible une chose pareille. Et pourtant c'est dans le langage. Hein. C'est ce que nous voyons autour de nous, hein. C'est ce que nous entendons. Alors ne dites jamais ça. Hein. Non, moi je pense le contraire, l'évangile, c'est un Dieu qui nous tend la main et qui nous demande de venir à lui. Et même si on fait des bêtises, eh ben, il va nous faire en sorte que notre vie évolue et que par la repentance, par une découverte de lui, eh bien, on prendra un autre chemin. Alors, il a couru en avant, et il n'a pas trouvé mieux que de monter sur un sycomore pour voir Jésus. Voilà. Alors, ça s'est bien trouvé, là, hein, qu'il ait ce sycomore juste en face de lui. Il devait se demander, mais comment je vais faire? Il devait longer la foule de droite qui faisait écran. Il dit, mais tous ces grands bonhommes, là, ils sont en train de me faire de l'ombre. Et il a vu, il a compris à un moment donné... Si je monte là-haut, je serai plus grand que tous, hein. Ça c'est sûr. Vous savez que Dieu place des sycomores sur notre chemin. Ouais. Alors c'est à nous de monter dedans. Hein. Ouais. Vous savez monter dans les arbres? On va faire, tiens, à la rentrée, on va faire un acrobranche, si vous voulez. Vous aurez un, comment on appelle ça, un harnais, oui, voilà, c'est ça, parce que je ne voudrais pas vous perdre quand même. Ben oui, mais c'est vrai que ça fait un drôle d'effet, hein, quand vous êtes déjà à 5-6 mètres, là, comme ça, hein, voilà. Donc, il y a les sycomores, et les sycomores, ça peut être de différentes façons. Vous savez, sans que ce soit vulgaire, mais quelquefois, Dieu nous donne des promontoires, hein, pour passer au-dessus des hommes, pour passer au-dessus de nos préjugés personnels, au-dessus de nos jugements qui nous reviennent sur nous-mêmes. Ces promontoires, ils sont divers, hein. Ça peut être quelquefois quelqu'un qui vous rendra témoignage. Ça peut être tout simplement une personne qui va vous offrir une Bible. C'est un promontoire, hein, tout ça, hein. C'est déjà une marche qui vous amène à découvrir la grâce de Dieu. Ça peut être une expérience, hein, quelqu'un qui vous dit ou quelqu'un qui vous entraîne à prier avec lui, pour vous, pour votre situation. Et vous voyez un exaucement. Ça, c'est un sycomore. Et il y a beaucoup d'autres choses comme ça, hein. Alors, elles ne me viennent pas à l'idée, mais chacun d'entre nous qui sommes en train d'écouter cette parole, nous pourrions dire, mais Dieu a mis, il a mis des sycomores sur notre route. Et vous savez, il nous a donné la grâce de pouvoir comprendre le sens de ce sycomore qui était devant nous, de le réaliser et ainsi de pouvoir monter dedans, de pouvoir nous laisser emporter. On en parlait vendredi soir quand il s'agissait de Philippe et de l'Eunuque. C'est l'Eunuque qui dit à Philippe, « Monte dans le char avec moi. Ben, » c'était un sycomore, ça. Ben oui, voilà. Hein. Un sycomore roulant. Enfin, il était taillé, il était en planche. Voilà. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des opportunités, il y a des choses que Dieu met devant nous et que Dieu nous donne la perspicacité, l'acuité spirituelle pour comprendre que c'est ça. Et on a tous pris, excusez-moi l'expression, mais on a tous pris le train à un moment ou à un autre. Mais le bon train, comme on le fait chanter aux enfants, le train de l'Évangile. Ouais. Pas le train de ce monde, mais le train de l'Évangile. Et ça nous a amené à découvrir au fur et à mesure, eh bien Jésus, le découvrir. Ça, c'est extraordinaire. Alors, il est monté pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Il avait déjà certainement fait son itinéraire en disant, Jésus est là, il va passer par là. Et nous voyons notre Zachée qui attend sagement. Personne ne s'est peut-être trop aperçu. Ceux qui étaient ses administrés, vous savez, auxquels il demandait des impôts, il dit, mais notre percepteur, il est tombé sur la tête. Ouais. Lui qui avait l'habitude de trier des feuilles, là c'était des feuilles de sycomore qu'il est en train d'écarter. Ah oui, c'est curieux, hein, tout ça. Alors, lorsque Jésus, nous lit le texte, fut arrivé à cet endroit, Jésus a levé les yeux et lui a dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Voilà que Jésus passe par là. Il le souhaitait, Zachée, que Jésus passe par là. Mais quand il s'est trouvé très près, il a dit, « Mais, oh là là !» Il a dû sentir son cœur. Vous savez, il bat la chamade, hein, ou il bat la campagne, je ne sais plus comment on dit. Mais toujours est-il, il a été à cet endroit. Et je dis que Zachée était là, au bon endroit, au bon moment, au moment du passage de Jésus. Ouais. Il nous est, me semble-t-il, dans le livre du prophète Ésaïe, il nous est dit, mais saisissez-le au temps convenable. Prenez-le. Oui. Croyez-le au temps convenable. Alors, c'est ce qui se passe. Et Jésus, à ce moment-là, pourquoi? Parce qu'il aurait pu suivre son chemin. Il y avait tant de monde, il y avait la foule, hein, autour. Hein. Il y avait certainement un grand nombre de gens. Puis alors, imaginez-vous un cortège en Orient. Hein. On se bouscule. Hein. C'est vrai, voilà, c'est comme ça. Et à ce moment-là précis, Jésus aurait pu regarder devant lui, à droite ou à gauche. Mais là, il a regardé vers le sycomore. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé Zachée. Vous savez ce que c'est, là, quand vous commencez à prendre un peu de rougeur, quand vous êtes découvert, il ne faisait pas de mal. Il avait le droit d'être dans son sycomore, après tout, hein, c'était son droit. Mais toujours est-il qu'à ce moment-là, il s'est dit, oh là là, j'ai souhaité le voir, je voulais le voir, je veux le voir vraiment de près, hein, certainement. Et Jésus qui s'arrête, et quand Jésus s'arrête, tout le monde s'arrête. Hein. S'il y a 100, 200, 300 personnes, tout le monde s'arrête. C'est quand même assez impressionnant, hein, pour celui qui est concerné. Et il va lui adresser la parole, il va lui dire... Zachée, hâte-toi de descendre. Je vous ferai remarquer, c'est extraordinaire, nous l'avons entendu ce matin, c'est que Jésus connaît son nom. Il nous appelle par notre nom. Ouais. C'est formidable. Il ne se trompe pas, le Seigneur. Que ce soit Paul, Pierre, Jacques, ou Marie, ou qui vous voudrez. Eh bien, le Seigneur connaît notre nom, il nous connaît déjà à l'avance. Et il va l'appeler donc ainsi, par son nom. Il n'y a aucun doute. Zachée aurait pu dire, mais bon, voilà, peut-être qu'il se trompe, mais là, c'est vraiment son nom. Et il va lui dire, mais hâte-toi de descendre. Notre pauvre Zachée ne fait que se hâter, vous avez remarqué, il nous a dit qu'il a couru. Et là, maintenant qu'il est en haut, il va falloir qu'il redescende. Et Jésus va lui donner cette parole. C'est en quelque sorte une invitation, hein. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et c'est là où, véritablement, eh bien, nous touchons du doigt que le Seigneur sait parler à chacun, à chacune, en fonction non seulement de ce qu'il nous connaît dans notre, par notre nom, qu'il nous connaît dans notre personnalité, mais il sait ce qui va nous faire, ce qui va nous faire bouger. Il sait ce qu'il va nous amener, eh bien, à prendre position et à réagir. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ça aurait pu autre chose. Zachée, il aurait pu, Jésus aurait pu lui demander autre chose. Hein. Mais là, c'était comme ça. Et recevoir Jésus dans sa maison, c'était avoir 13 personnes le soir chez soi. Ah oui, vous comprenez pourquoi. Hein. C'était comme cela. Et c'était véritablement la parole qu'il fallait. Vous savez, quand Dieu s'est révélé aux bergers, au moment de la naissance de Jésus, il leur a parlé par les étoiles. Quand Jésus a parlé et a bousculé l'état de Pierre, et puis de Jean et de Jacques, il leur a parlé par la pêche miraculeuse, parce que c'est ça ce qui les concernait. Quand il parlera aux foules sur les monts de Galilée, il leur parlera par le semeur, vous savez, celui qui sème, etc. Parce que c'était véritablement là le pays agricole, la Galilée. Et puis combien de choses, de cette manière, d'une façon ou d'une autre, il y a tellement de paraboles. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, parce que c'était ça. C'était ça ce que Zachée avait besoin d'entendre, et surtout d'accomplir et de faire. Alors encore une fois de plus, je vous dis que tout est précipité. Hein. Et tout à nouveau, Zachée se hâta de descendre, et il le reçut avec joie. Il ne s'est pas posé la question, mais en disant, mais qu'est-ce qui va arriver maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et il a ressenti au fond de lui-même, comme l'eunuque, après avoir reçu le message de Philippe, il nous est dit que, eh bien, il a continué son chemin dans la joie. Vous savez, il y a une caractéristique, et c'est ce qui fait la grande différence, et c'est ce qui montre qu'il y a une expérience que l'on appelle la nouvelle naissance, la conversion, qu'on n'est plus les mêmes après, c'est que quand Jésus vient habiter dans notre maison, habiter dans notre cœur, dans notre âme, dans notre vie, complètement, et que nous lui faisons toute la place, et que nous nous hâtons de le recevoir, eh bien, il y aura toujours une marque distinctive, c'est la joie. Ce matin, c'était un jour de joie, cet après-midi, c'est un jour de joie, et nous l'avons exprimé. Et lorsque nous chantons des cantiques, eh bien, nous le faisons, et surtout que les chrétiens et que l'Église ne perdent pas de vue, finalement, cet enthousiasme et cette ferveur qui nous a été donnée, qui nous est donnée, qui nous est renouvelée tous les jours. Ça, c'est important. Parce que c'est formidable. On chante des cantiques. On pourrait les chanter en marmonnant, en disant, ouais, bon, voilà, mais c'est pas comme ça. Moi, je dis qu'il faut garder la flamme vive, hein. Même si quelquefois elle vacille avec les coups de vent de l'adversité ou des afflictions que nous pouvons connaître, elle ne va pas s'éteindre, mais c'est à nous de l'entretenir. Et c'est très bien, hein, lorsque nous avons des cantiques, lorsque nous prenons la parole, que, eh bien, tout cela nous fortifie. Et cette joie, eh bien, elle est quand même une preuve patente que le Seigneur vit en nous. Le Seigneur, c'est le Seigneur de la joie. C'est le Seigneur de la paix. C'est le Seigneur de la vie. Et la vie, c'est tout ça. Alors, il l'a reçu avec joie. Alors naturellement, ce n'est pas du goût de tout le monde. Parce que quand on lit la suite, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne comprendront pas, il y a des gens qui se refuseront de comprendre, même s'ils comprennent. Parce que ça leur déplaît. Parce que finalement, eh bien, ça les gêne. Ils ont toujours marché dans les clous et marché dans le statu quo voilà, de ce qui se faisait. Et quand quelqu'un sort un peu du rang, eh bien voilà, on commence à le critiquer. Et voyant cela, tous murmuraient. Mais ça regardait Zachée, ça ne regardait pas les autres. Jésus n'a pas demandé à tous ceux qui étaient autour, je veux aller chez vous ce soir. Non, il a demandé à Zachée. Et parce qu'il a demandé à Zachée, eh bien ça rendait les autres, figurez-vous, même s'ils n'avaient pas voulu recevoir de Jésus, ça les rendait jaloux. Ça c'est terrible la jalousie. Hein. Vous savez ce que c'est la jalousie ? Vous ne connaissez pas ? Non ? Alors, vous n'allez pas me répondre, mais bon. C'est terrible, hein. Ça rend malheureux. Ça rend malheureux soi-même. et ça rend malheureux les autres. Parce qu'il n'y a rien de positif, il n'y a rien de favorable, il n'y a rien qui fasse avancer les choses quand on est jaloux. On meurt sur pied, c'est un cancer, c'est une gangrène. Et puis, c'est alimenté par un regard qui est un regard, finalement, qui, au lieu d'être positif, je le disais il y a un instant, c'est quelque chose où on recherche, le jaloux recherche toujours de quoi alimenter sa jalousie. Alors il s'enfonce de plus en plus, il coule, c'est une spirale, mais ça nous entraîne vers le bas. Et je pense que quand même, les autres, ils étaient jaloux que Jésus, qu'ils n'aimaient pas, parce qu'ils n'aimaient pas non plus Jésus, mais les gens, on peut imaginer qu'ils devaient ricaner, excusez-moi, le diable ricane, hein, méchamment et d'une manière maligne, mais de dire, ah, si ce Jésus de Nazareth était vraiment le Messie, s'il était véritablement l'envoyé de Dieu comme il le prétend, comme tout le monde le prétend en Israël, mais qu'est-ce qu'il a à faire d'aller chez un publicain, d'aller chez Zachée, qui est notoirement connu pour un débauché, tout ce que vous voudrez, un voleur. On a dit la même chose quand Jésus est rentré chez Matthieu. On a dit la même chose quand la femme, vous savez, la femme de mauvaise vie est venue chez le pharisien et que Jésus était là à table et qu'elle a dénoué ses cheveux et qu'elle a essuyé finalement les cheveux de Jésus, parce qu'elle pleurait, mais d'une véritable repentance, ben, le maître de maison a dit, mais qu'est-ce que cette femme fait là? Et il dira également, il dira beaucoup plus loin, il dira, mais si Jésus connaissait la femme qui le touche, alors, donc ça anéantissait tout simplement, eh bien, la conception que Jésus était le Messie, qu'il était prophète, parce qu'un prophète, il connaît tout. Jésus a bien répondu, hein, dans la circonstance, je suis en train de vous rappeler. Alors, les gens murmuraient, et ils se racontaient les uns les autres. Il est allé loger, c'est un homme pécheur, en haussant les épaules comme ça. Ben oui, mais c'est ça les surprises avec le Seigneur. Moi, je voudrais vous dire que Dieu ne va pas chercher les gens bien. Il va chercher les gens qui sont perdus. Parce que c'est ceux-là qui ont besoin de la grâce de Dieu. Quand on est bien portant, quand on se sent en bonne santé, on ne va pas chez le médecin. Oui, enfin bon, quelquefois pour lui dire bonjour, mais... On n'a pas besoin. Non, mais c'est vrai, on n'a pas besoin d'aller chez le médecin. Et on n'aurait pas l'idée. Mais quand on se sent mal, mal dans son corps, mal dans son âme, ben à ce moment-là, on consulte. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais le gros problème avec le péché et avec le mal, c'est qu'on n'est pas toujours conscient qu'on est mal. On n'est pas toujours conscient que finalement, on va mal et que ça peut tout cela nous emmener très très loin et jusqu'à mourir. Alors, Jésus justement s'est tourné vers ces gens-là. Alors même s'il était petit, même s'il était tout ce qu'on disait, eh bien voilà, Jésus a fait le choix. Zachée, il a entendu ça. Il s'est tenu devant le Seigneur. Il nous a dit qu'il s'est tenu devant Dieu, devant Jésus, et il lui a dit ceci, « Mais voici Seigneur, voici Jésus, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple 4 fois plus. » C'était un homme d'argent, c'était un homme d'affaires. Certes avec une mauvaise réputation, mais c'était une réputation, nous le comprenons, qu'on lui avait faite. Parce que moi je crois qu'il est sincère, notre Zachée. Et quand il dit « il m'arrive de faire des erreurs de compte, de prendre plus qu'il ne faut », bien moi je voudrais te dire que malgré tout ce que l'on dit de moi, malgré mon état, malgré ma profession qui est une profession entachée de doutes et suspectes, moi je voudrais te dire... en toute conscience, avec une grande honnêteté de cœur et d'âme, eh bien, quand je me trompe, je donne 4 fois. Je rends 4 fois. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, je crois que c'était un homme qui était sorti certainement des rangs de la religion officielle, du judaïsme, de la synagogue et du temple, mais qui néanmoins avait quand même une vie morale. Il y avait déjà des dispositions, il était pécheur comme les autres, hein, mais il y avait quand même des dispositions au bien. Il le dit, c'est pas inventé. Et... moi, je crois que Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur des gens. Il ne connaît pas seulement notre nom, mais il voit ce qu'il y a dans notre cœur. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui sont bien en dehors, peut-être de toute appellation, dénomination religieuse ou spirituelle, mais quelque part, eh bien, qui ont une vie droite, mais qui ne demandent maintenant qu'à voir le couronnement de tout cela en rencontrant Jésus. Ouais. Vous savez, il y a des gens qui s'appliquent quand même à avoir une vie morale. Une vie en relation avec les autres, qui soit honnête, qui soit propre. Pourquoi pas? Est-ce qu'on serait, nous, seulement les chrétiens à voir ça? Bah écoutez, moi je ne pense pas. Maintenant, ces gens-là, il faut qu'ils aillent plus loin. Ces bonnes dispositions, Dieu les a créées dans leur cœur. Cet amour de la vérité, cette faim et cette soif de la justice, de ce qui est droit, de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qu'ils ne savent pas encore, mais qui glorifient le Seigneur, parce que ce sont des principes universels, ce sont des principes tout simplement que Dieu a mis dans nos vies. De ne pas se réjouir de l'injustice, de ne pas se réjouir du malheur des autres. Eh bien, moi je crois qu'il y a des gens comme ça, qui ne sont pas encore dans cette bergerie, et Jésus nous dit bien, il faut que je les amène, pour que, après avoir découvert l'Évangile, ils disent, mais c'est déjà ce que j'avais prédiqué. Et maintenant, eh bien, ça me confirme que je ne marcherai plus tout seul dans cette voie, mais qu'il y aura un Dieu, qu'il y a un Sauveur, un Seigneur qui va me diriger, et j'aurai sa parole, finalement, pour m'éclairer. Zachée. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Voilà. Donc ça peut se comprendre de différentes manières. Jésus est le salut, il est rentré dans la maison de Zachée et il a porté la grâce de Dieu. Ça peut se dire aussi que par cette rencontre, eh bien, la grâce, le salut est rentré dans le cœur de Zachée. Ça va plus loin que dans sa maison. Faire rentrer Dieu dans sa maison, c'est une chose. Il y a bien des gens qui pensent et qui sont tout à fait les tenants de la chose en disant « Mais moi, Dieu est là, j'ai des crucifix un peu partout, vous savez, j'ai des médailles, hein, j'en porte même sur moi-même. » Voilà. Mais ce n'est pas cela. Le principal, ce n'est pas cela. Ce n'est pas de l'avoir à l'extérieur, c'est de l'avoir à l'intérieur. Qu'il soit dans ma maison, dans mon cœur, au fond de ma vie, et que ce soit lui qui règne. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, et il donnera l'explication, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Eh oui, on va chercher très loin, hein. Abraham, il y a si longtemps, le père des croyants, l'homme qui a amené finalement, par l'exemple, par l'expérience, cette grande révélation de Dieu qui est la foi, cette découverte de Dieu, ces réponses d'Abraham à l'appel de Dieu lorsque Dieu le sollicite. Il répond, il fait, il accomplit, il marche avec Dieu. Il nous a laissé un héritage extraordinaire et je crois qu'à travers tous les âges et tous les siècles, même dans le peuple d'Israël, même parmi chez les Juifs, il y a eu des hommes que l'on appelle les pieux d'Israël, les hommes pieux d'Israël. Oh, ils ne faisaient pas de bruit. Ils se cachaient parce qu'ils étaient souvent persécutés. Oui, même dans le peuple de Dieu, Israël. Et nous voyons que c'était des gens qui étaient les détenteurs, qui étaient les dépositaires, et bien des principes de Dieu au fond de leur cœur. Et lui avait quelque chose. Il n'allait peut-être plus au temple, il n'allait peut-être pas à la synagogue. Mais une chose qui était certaine, c'est qu'il avait la foi d'Abraham dans son cœur. Ça, c'était l'héritage qu'il avait gardé. Et je suis sûr, et ça me réjouit profondément d'y penser en vous le disant, moi je suis sûr qu'il y a autour de nous, des centaines, et des milliers de gens qui n'appartiennent peut-être pas à une congrégation ou au centre évangélique ou ceci et cela, mais moi je crois que quelque part, là où ils sont, avec les lumières qui sont les leurs, moi je crois qu'il y a des gens qui aiment Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu. Qu'est-ce que nous étions auparavant? On ne connaissait pas grand-chose, on vivait notre vie. Mais néanmoins il y avait comme une petite étincelle qui ne demandait que l'on souffle dessus pour qu'elle s'enflamme. Alors, ne nous fions pas à ce que nous voyons à notre environnement. Il y a des Zachées qui sont cachés dans les sycomores, pardon. Pareil, enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est le même mot, ça commence pareil. Il y a certainement des hommes autour de nous, et vous savez ce que nous pouvons dire, parce que ça c'est notre rôle. Seigneur, tu connais ceux qui t'appartiennent, alors amène-les vers toi. Qu'ils deviennent nos frères et nos sœurs, qu'ils rentrent dans la famille de Dieu, qu'ils te connaissent et qu'ils te rencontrent comme leur Père Céleste. Non pas leur Dieu, mais comme leur Père Céleste. Et qu'ils deviennent des fils et des filles. Qu'ils deviennent des disciples de Jésus-Christ. Et c'est ça ce qui est formidable. Jésus nous fait cette promesse, elle est très belle. Je n'éteindrai pas le lumignon qui souffle. Avant de venir au Seigneur, nous avions certainement les uns et les autres une religion. Et nous étions en tâtonnement. Nous étions en train de chercher. C'est pas qu'on faisait de grands efforts, certainement pour se préoccuper de Dieu, mais au fond de nous-mêmes, ramener à nous-mêmes par rapport à des situations humiliantes ou autre chose, ou des menaces, de périls ou d'accidents, à ce moment-là, nous nous souvenions que Dieu existait. Et dans certaines situations, nous voulions bien faire les choses. C'était déjà les prémices, parce que Dieu avait mis déjà dans notre cœur la pensée de l'éternité. Et je crois que des hachés, il y en a autour de nous. Alors maintenant, Seigneur, permets qu'ils te fassent rentrer dans leur maison. Seigneur, va vers eux, bénis-les, touche-les, comme tu nous as touchés, parce qu'autrement on ne serait pas là, hein, quelque part les uns et les autres. Et Jésus tirera cette conclusion toute simple que vous connaissez, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Oui, Seigneur, merci que l'Évangile ce soit comme ça. Hein. Parce que si c'était une sélection uniquement du nec plus ultra de la société humaine, est-ce qu'on peut dire ça? Ça n'existe pas au regard de l'Évangile. Hein. S'il n'y avait que des gens qui, parce que eux-mêmes se prennent comme modèle, comme étalon ou norme de la moralité ou de la spiritualité ou de la religiosité, eh bien merci que ce ne soit pas comme ça, Seigneur, parce qu'on serait tous des pharisiens. Oui. Et Jésus n'aurait pas eu besoin de venir mourir à notre place, parce qu'on se sauverait par soi-même. C'est dans beaucoup de religions, c'est comme ça. Hein. On a complètement maquillé, dénaturé, déformé, édulcorer le message de l'Évangile en disant « Mais vous ne tracassez pas, faites vos efforts, faites de bonnes œuvres et vous arriverez à vous sauver par vous-même. » C'est pas cela. Le Seigneur a mis tout au même niveau en disant que si vous ressentez vos manques, votre petitesse, eh bien à ce moment-là, vous pouvez vous approcher de Jésus. Et c'est lui qui vous sauve parce qu'il a tout accompli. Alors que Dieu nous bénisse cet après-midi. Que Dieu nous donne sa grâce. Hein. Et puis, croyez qu'on peut prier aussi pour que Dieu amène à lui et rencontre tous ces hachés qui sont autour de nous. Il y en a, et nous en faisions partie, mais il y en a d'autres encore à venir. Alors que l'Église ne se désespère pas, qu'elle ne se relâche pas de la prière, et qu'ainsi, au contraire, elle comprenne qu'à travers un exemple comme ça, eh bien, il y a encore de l'espérance, et il y a encore des perspectives, que le Seigneur nous aide, et que le Seigneur nous bénisse. Et je vous dis ces paroles, c'était au moment de la construction de l'Église primitive. Hein. Vous vous rendez compte, il n'y avait pas de chrétiens à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Ah oui, à ce moment-là. Alors aujourd'hui, eh bien, les possibilités sont encore beaucoup plus grandes. Parce que l'Église existe, et elle est en travail, elle est en prière, et elle est là pour parler de Jésus qui sauve. Nous allons prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que c'est une belle histoire, hein. Une belle histoire de vie, une belle histoire de rencontre. Une belle histoire, Seigneur, ou peut-être certains diront une histoire de coïncidence. Moi, nous voulons penser plutôt à une histoire de circonstance qui met en contact ce Dieu qui aime les hommes avec cette créature perdue, cette créature désespérée, pour que véritablement, eh bien, la foi vienne unir. En effet, Seigneur, celui qui a perdu espoir le viennent unir à celui qui donne l'espoir, qui donne l'espérance. Et ça s'appelle tout simplement la foi. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce, parce que nous croyons que, par-delà les paroles humaines que nous avons prononcées, il y a l'œuvre du Saint-Esprit qui passe dans les vies, dans les cœurs, dans les âmes. Alors, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Et nous voulons te remercier parce que nous croyons, Père éternel, que tu es encore celui qui est capable, par ton esprit, de descendre, Seigneur, sur notre pauvre terre, dans notre misère, et ainsi d'appeler les petits, d'appeler ceux qui sont là dans la maladie, dans l'infirmité, qui sont là, Seigneur, privés de capacité de s'approcher de Dieu à cause de l'écran des hommes, de, en effet, la jalousie humaine, à travers toutes sortes de choses. Mais Seigneur, nous te bénissons parce que cet après-midi, à travers simplement ce texte, Tu as ouvert pour nous les possibilités de monter dans le sycomore qui nous permet de voir Jésus. Alors, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Seigneur, dessile nos yeux, ouvre nos cœurs, et qu'ainsi nous puissions voir Jésus. Rencontrer Jésus, qui lui-même nous fait entendre, « Il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison, dans ton cœur, dans ta vie. » Qu'allons-nous répondre, Seigneur? Eh bien, nous voulons te dire, Seigneur, prends tout. Et nous savons, Seigneur, que, en te disant comme cela, il y a quelque chose quelque chose d'unique, quelque chose qui n'appartient qu'à la dimension de l'invisible et du surnaturel, c'est cette joie. Alors réjouis-nous, remplis-nous de cette joie divine, de cette joie de l'esprit, du salut que nous avons trouvé dans celui qui a donné sa vie à la croix du calvaire et qui est ressuscité, où nous pouvons affirmer notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur est vivant. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.